Bonjour, vous écoutez De la Borne plein les oreilles, épisode 7. Salut mon Tom Tom.
Salut mon petit.
Comment ça va mon Thomas?
Bah écoute, très bien, avec une météo estivale comme on en a rarement vu, je t'avoue que là je suis un peu démuni.
Tu es démuni mon Tom Tom?
Oui, je vais ressortir le ciré.
Le ciré, ça oui. C'était une expression après tes courses, t'étais légèrement ciré j'ai l'impression.
Ouais.
Bon ça sent les vacances, alors ça sera un peu le thème du jour. Alors mon Tom Tom, comme à notre habitude, dans la bande plein les oreilles, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous écouter sur Spotify, bien sûr, Deezer, encore, mais ça, bon, c'est pas trop développé chez nous en France, hein.
Non,
c'est plus à l'international.
Non. Exactement, hein. Exactement.
Donc n'oubliez pas, bien sûr, de mettre 5 étoiles si le podcast vous a aimé. Je crois qu'on a passé les 140, donc continuez, parce que forcément, plus on aura d'étoiles, meilleur notre référencement sera, et plus on pourra faire des missions...
Exactement.
Ensemble.
On prévoit pas mal de choses pour la rentrée. On verra comment on organise tout ça. Petit off dans l'été pour se remettre sur en canne. Mais on y revient à la fin parce que je crois que l'été va être animé.
L'été va être très très chaud. Ah non.
Non.
Ah non, là c'est mal barré. Là.
Non, l'été est pas chaud.
Le petit crachin qui nous tombe sur le nez fait plaisir à tes amis de la course à pied.
Ah, l'été sera chaud. Mais surtout, on va aujourd'hui vous parler de comment finalement organiser un petit peu son été avec la borne autour. Comment on allie vacances familiales, vacances avec les potes, continuer un peu à s'entraîner, borner, éviter de perdre ce qu'on aura pu acquérir tout au long de l'année. Voilà, bien sûr, si vous n'avez pas de vie sociale, pas de vie familiale, cet épisode ne vous concerne pas. Vous pouvez passer directement à l'épisode 8. On n'a pas le thème, mais l'épisode 7 vous concerne peu.
Donc du coup, pas d'épisode pour le mois d'août, donc ça sera le dernier épisode des vacances hein, pour le mois de juillet.
Exact.
Donc en août, on va se reposer un petit peu parce que vous nous fatiguez là, à faire les podcasts.
Non, on n'en peut plus. Mais bon, on sait, il y en a un qui va se moins quand même, qui va peut-être récupérer en août.
Peut-être.
Récupérer de je sais pas quoi, mais il va récupérer, au moins du sommeil.
Du sommeil, et puis on se donnera rendez-vous à la rentrée. Alors, mon Tom Tom, comme à notre habitude, on commence notre podcast par les traditionnels... et non pas les traditionnels, ça m'énerve. Alors mon Tom Tom, est-ce que tu peux nous parler de ton premier « ça m'énerve » ?
Alors mon premier, il est un petit peu en mode malheureusement contextuel, par rapport au fait que, bon ben là, l'ouverture des vannes, ça y est, on peut refaire des compètes, on peut remettre des dossards, et là j'ai un peu l'impression que c'est calendrier catastrophe. En 2 mois, il va falloir rattraper toutes les courses qu'on n'a pas pu faire. Donc j'avoue que ben, j'essaie de me tenir au courant des différentes échéances qu'il peut y avoir de part et d'autre, mais là clairement j'y comprends plus rien. Dans le même week-end vous avez 6 courses, on sait plus, ça noie le poisson, on sait pas quelle course est importante, quelle course l'est moins. Voilà, j'avoue qu'on y perd un peu son latin. Maintenant, bon bah ben, voilà, malheureusement c'est effectivement contextuel. Pour autant, voilà, je trouve qu'on en perd un peu du sens critique sur la hiérarchie, sur...
Tu veux dire que là, clairement, si tu gagnes le trial de Sebaza, est-ce que, enfin, d'un point de vue valeur, après, aujourd'hui, ce qui fait foi dans le trial et aussi dans le vélo, c'est les points.
Alors ouais, en fait, sur les points, il n'y a pas vraiment de points. Alors, il y a un espèce de système qui est en train de se mettre en place, qui est en train de chambouler un petit peu tout par rapport à même l'organisation des grosses courses type l'UTMB, on y reviendra. Mais il y a eu... un chamboulement sur la capacité à pouvoir avoir un dossard à l'UTMB. On est un peu en mode changement de stratégie, à savoir qu'on s'est en train de devenir un peu comme la plateforme Ironman et que finalement l'UTMB deviendrait l'Ironman d'Hawaï avec des courses pour sélectionner tout ça.
Une sorte de championnat du monde
ouais,
de ligue. L'ultra...
Bah, une ligue, en fait, une ligue...
indépendante de la FED.
Exactement. Et, mais il y a quand même des points, ce qu'on appelle les points ITRA. Alors, les points ITRA, chaque course qui a pu payer une licence à l'organisme valide des points et enfin valide des points votre classement à cette course-là valide des points et vous donne un certain classement et une espèce de hiérarchie et de niveau du coureur. Quelqu'un qui a 600 points ITRA, il sera moins bien, finalement il a une valeur athlétique moindre que quelqu'un qui a une cote ITRA, ce qu'on appelle à 800. Donc ça hiérarchise un petit peu les choses. Maintenant, j'avoue qu'actuellement, y a plein de courses qui ont des cotes super élevées, des coureurs avec des cotes super élevées qui vont un petit peu sur tous les fronts et on a du mal à suivre. Mais voilà, je dirais que c'est mon petit ça m'énerve du mois, mais plus finalement le contexte qui fait que du coup le calendrier reste très 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 compliqué sur cette première ouverture de Vannes.
En tout cas, on salue malgré tout les organisateurs car quand même courageux, on a vu avec Lionel Paris le mois dernier. Voilà, donc même si c'est pas évident d'organiser aujourd'hui des épreuves, on salue le maintien de leurs épreuves. Alors, moi, mon tom-tom, ça m'énerve. Ça concerne le Tour de France. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est facile. T'es trop nul. On est au mois de juillet. Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est facile.
Non, mais là, Cavendish a égalé le record de Merckx sur le nombre de victoires sur le Tour de France. Et on dit Cavendish est un coureur extraordinaire. Alors, certes, mais moi, je n'arrive pas à le comparer à Eddy Merckx. Eddy Merckx, c'est un peu comme toi, t'aimes bien qu'on parle avec des images.
C'est les comme si.
Oui, c'est les comme si. Et ben, tu vois, Johnny Hallyday, c'était le taulier. Tu vois, le mec. Ouais. Respecté, respectable, et personne ne contredisait cet homme-là. C'était le meilleur. Ouais.
Si tu compares Johnny et Danny Briand.
Bah. non, alors on va dire Dick Rivers et Johnny Hallyday.
Ah okay, ouais. Ah oui.
Donc,
c'est dur pour Cavendish quand même.
Non, c'est pas ça, mais c'est que Dick Rivers, il est très bon dans la country music, tu vois. Ouais. Mais dans le rock, c'est pas son délire.
Ouais.
Et là, typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que Johnny, il était multi-musique, country, rock, soul, tu vois, il savait tout faire, Jojo.
Ouais.
Et ben là, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on compare Cavendish, qui n'est qu'un sprinter, avec Merckx, qui a gagné des Tours de France.
Ouais.
Donc, voilà, juste, ça m'énerve, on se détend là-dessus, c'est le meilleur sprinter du monde, et je dirais de tous les temps, je suis complètement d'accord. De là à dire qu'on le compare à Merckx, j'ai un peu de mal.
Oui, voilà. Alors, moi, je te rejoins, après le
Cavendish... Avec Eddie, j'aurais pu dire Eddie Mitchell.
Non mais je te rejoins sur Cavendish. Après le problème qu'on va avoir, c'est que ça m'énerve toi sur le traitement de l'information.
Voilà, parce que c'est un traitement de l'information parce que la performance en elle-même est incroyable.
Oui, mais Cavendish, il a justement lui, il est quand même ultra mesuré sur le fait que effectivement, il est conscient d'avoir les 33 victoires. Maintenant, c'est 34 victoires. Mais voilà, il est totalement conscient que Merckx, qui a gagné des étapes de montagne, de sprint,
chrono,
voilà, il est quand même beaucoup plus polyvalent, il est plus éclectique que Cavendish.
Je l'ai placé.
Mais mais Cavendish, c'est sûr que c'est le plus grand sprinter de tous les temps. Et moi, ce que j'adore avec Cavendish, c'est la résilience. Le gars, il était au fond du trou. Il y a 2 ans, il avait pas d'équipe. C'était la bérésina totale. On lui offre sa carte. Et puis là, c'est un concours de circonstances énorme. Bennett qui peut pas faire le tour. Ça lui offre une carte en or. Et il le transforme. C'est le phénix. Pour moi, Cavendish, c'est vrai que... Alors, on apprécie le cycliste ou pas, mais clairement, quand tu le vois chialer comme un gamin qui a gagné sa première étape alors qu'il en a 30 au compteur, moi, je trouve ça juste génial, quoi. Après, bah oui, c'est le Tour. On est tous conscients que c'est le plus beau théâtre du sport moderne. Maintenant, voilà, Cavendish, quand même, quand il gagne... et qui chiale dans les bras d'Alaphilippe, là, clairement, on dit, le vélo, le Tour de France, ce mois de juillet, c'est quand même autre chose.
C'est la grande classe. Ça rappelle aussi une petite anecdote avec notre jeune Rémi Cavagna, qui,
exact,
l'année dernière, a participé au Tour de France et a brillé,
ouais,
suite, justement, à un abandon d'un de ses
coéquipiers. L'éviction.
Oui, d'un de ses coéquipiers, lié à des soucis. malade, quoi.
Ouais,
Et voilà, il a brillé sur le Tour de France. Et c'est aujourd'hui, voir Cavendish où il en est, c'est juste magique. Après, Cavendish vient de la piste, c'est quelqu'un qui a toujours été... C'est vrai que les sprinteurs, pour vous présenter un petit peu la psychologie de ces hommes-là, c'est des gens complètement différents. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça en athlétisme, sur piste, mais c'est des mecs... C'est des tueurs. Mais quand je dis ça, je pèse vraiment mes mots.
Ah oui.
Ils ont un mental, mais quelque chose d'impressionnant. Et quand ils veulent arriver à leur but, ils y vont, quoi. Et peu importe s'il faut se mettre sur le toit, ils y vont. C'est comme dans les tranchées, ils mettent le casque à pointe et là, il n'y a pas débat. Non, mais c'est juste pour expliquer qu'ils ont un état d'esprit et ces gens-là, ils sont une dizaine au monde, pas plus,
ouais,
à avoir cet état d'esprit. Bon, Cavendish, bien sûr, c'est le maître de tous, mais je tiens à vous rappeler que ces gens-là sont vraiment très spéciaux, quoi.
Oui.
On se dit, oui, il a fait que 200 mètres de course. Alors, non. Parce qu'il faut savoir qu'eux n'arrivent pas à monter les bosses parce qu'ils sont assez gros, ils ont des gros fessiers, des gros muscles. Et derrière, ils doivent supporter toutes ces choses-là. Et quand ils arrivent sur le sprint, des fois, ils ne sont pas très frais. Et donc, c'est vraiment une bataille. Et dans leur tête, c'est des tueurs. Donc, voilà. Moi, je respecte vraiment ce qu'il a fait. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, c'est oui, le traitement c'est... de l'information, dire ah, c'est Merckx. Non, alors on se détend. Merckx, ouais. ça reste le taulier. Voilà.
C'était mon mais je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai que du coup, quand tu dis que c'est un monde à part, clairement, quand tu vois le dernier kilomètre, ils ont posé le cerveau. Et globalement, là, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Ça, ils changeront rien par rapport à arriver premier à la ligne d'arrivée. Maintenant, l'avantage de Cavendish, ce qui était moins le cas de Merckx, alors j'étais pas né hein, quand même.
Parce que ah, là... Tu me rassures parce que je te voyais déjà vieux, mais à ce point-là.
Merckx a, été quand même des... Il a gagné des étapes où globalement c'est à la pédale, point barre, sans équipier, que dalle. Là, Cavendish, il est emmené par le train de la Quick Step. Alors c'est plus la Quick Step, mais non, mais c'est.
Ouais.
Voilà, mais Claire, qui d'ailleurs va changer encore en 2022. Alors,
il est fort.
Il faut vraiment suivre parce que moi je suis encore resté à Quick Step.
Oui, mais tout le monde dit Quick Step.
Oui, et du coup, bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'apprendre la 2022. Je sais pas, je connais pas le sponsor. Mais il a un train. Putain, quand on voit ça, vu de l'hélico, quand il monte ça, c'est juste une. Bah, ça a montré à toutes les écoles. Voilà, c'est juste
alors,
il faut
savoir sur le papier, pour vous expliquer, et puis on va changer de sujet parce qu'on en a encore
oui,
un peu à faire.
Tout à fait.
On avait dit que ça durait qu'un quart d'heure aujourd'hui. clairement, en fait, à l'hélico, certes, on voit des choses, mais quand on est dans le peloton, on ne se rend pas compte.
Ouais.
C'est que les sprinteurs, entre eux, ils ne laissent pas la place aux grimpeurs. Si, genre, toi, petit grimpeur, tu viens te frotter à lui, il te dégage. Il y a une hiérarchie qui est, parce que les sprinteurs ne viennent pas t'embêter quand tu arrives dans les montagnes. Le train.
Bah, ouais, c'est vrai. Alors qu'ils pourraient, hein.
Non, mais pour le principe, genre, attends, t'es mignon, tu viens me chatouiller les fesses alors que je vais faire un sprint et que je risque de me mettre au tas.
Ouais.
Faut savoir que ça roule à 60 à l'heure, les watts moyens sur la dernière minute sont assez phénoménaux.
En gros.
Les watts.
Un watt.
Ouais.
Une watt. Un watt. Phénoménal.
Phénoménal. Ouais. Les watts phénoménal. Bon, ouais. Ok, Georges. Je vais, du coup, pour la plage, j'ai prévu le dictionnaire. Comme livre de...
Une watt. Un watt.
Et en fait, il y a une concentration telle, et des fois, ça fait des vagues, mais bon, il y a des circonstances de course. Et tu vois, là, sa dernière victoire, il a essayé de suivre son train. Oui. Manque de bol, le train se coupe en deux. Il suit une autre roue, et tu vois, il arrive à se replacer après. Il a le feeling, il a une vision périphérique. Mmh. Parce que les pilotes de course ont une vision périphérique. Lui, il la travaille, et c'est ce qui fait que dans un peloton où il y a 40 mecs les uns à côté des autres, il est capable, lui, sans forcément tourner la tête, de savoir qui est quoi, à quel endroit, pour être vraiment positionné parfaitement. C'est juste magnifique. Ouais.
Ah oui, c'est beau.
C'est beau, le vélo.
Ça s'appelle la simplexité.
La simplexité, voilà. Bon, il nous l'a fait trois fois, on arrête de l'expliquer maintenant, les amis. Et ton deuxième, ça m'énerve, mon Tom-Tom.
Alors, mon deuxième, ça m'énerve, c'est le concept de l'apéro entre...
Déjà, l'apéro, pour toi, c'est trop.
Déjà, l'apéro, c'est chaud, c'est compliqué, l'apéro. Mais l'apéro entre coureurs pendant une saison. Là, on est en plein dans la saison. Et là, on dit, hey, les gars, on se ferait pas un petit apéro? Et là, l'apéro, ça vire à le premier qui va venir avec les bas de compression, les bottes de presso. Et voilà, ça vire à, ok, on fait un apéro. Mais en fait,
les gars, on emmène notre complexe en fil ce soir.
Voilà, c'est ouais, le gars, il vient avec son complexe. Il est en mode ok détente, mais alors on sent en France c'est la détente subie.
T'as pas un petit jus de Goya?
Voilà, c'est Hongrie, aujourd'hui on fait apéro et en fait le premier qui met du sirop dans son Perrier, déjà tout le monde le regarde. Mais voilà.
Ils partent pas en vacances ces mecs-là.
Bah ils partent peu en vacances, mais alors là c'est vrai que c'est compliqué. Après, j'avoue que on est tous à un moment donné un petit peu à fond quand on a un objectif dans le viseur. Mais je pense que le mieux, quand il y a apéro et que vous êtes dans la saison, en fait, le mieux, c'est de ne pas faire d'apéro.
Mais comment tu fais, Thomas? Parce que moi, je peux vous donner des anecdotes. Et en fait, tiens, astuce de l'été de Thomas Laure Blanchet. Je vous la donne. Vous êtes invité à un apéro et vous préparez un objectif. Mais laissez-vous remplir votre coupe de champagne. Et vous verrez, la coupe de champagne, après 2 heures, elle ne s'évapore pas. Elle est toujours pleine.
Non, mais je pense que quand on est un petit peu dans focus sur un objectif, alors je conçois complètement que, à un moment donné, l'objectif doit faire sens par rapport à votre organisation professionnelle, familiale et personnelle. Les courses qui vont être l'été, faut être conscient que le mois avant, ça va être compliqué d'être sur le même rythme que vos potes qui ont fini la saison. Donc c'est vraiment à prendre en considération quand vous montez vos objectifs et votre programmation générale. C'est très compliqué de se dire bon, ok, je vais faire le métier, mais en même temps j'aimerais bien faire une sortie avec mes potes et aussi un barbecue et aussi choisir ses préférés ou renoncer. Honnêtement, si vous avez un objectif dans le viseur, vous renoncez à quelques petits moments qui pourraient un peu nuire à l'optimisation du truc, parce que de toute façon, Je dis pas qu'il faut pas la faire, mais à un moment donné, vous serez ni super en phase avec la soirée, ni super en phase avec votre objectif, et de toute façon, l'un comme l'autre, vous allez, entre guillemets, vivre mal la chose. Donc, on laisse tranquille les apéros les 3-4 semaines avant les courses.
Alors,
pas avant les courses, avant la course.
C'est l'objectif de
l'objectif
l'année.
L'objectif de l'année, voilà.
On fait attention à ça. Alors, sur cet apéro, j'ai envie de dire, moi, quand tu fais un apéro avec tes collègues de sport, tu ne parles que de sport.
C'est compliqué de parler d'autre chose.
Même... C'est comme, tu sais, quand tu fais une soirée avec des profs. les soirées avec les profs, eh ben, ça va parler que des gamins toute la journée. Toute la soirée.
Et toi,
Lulu, là, il a pas mis un coup de tête au petit GG là.
Mais on sent quand même qu'il était dans un collège un peu particulier. Non, peut... Sinon, t'as vu, il lui a mangé un doigt.
J'étais dans la jupe, moi.
Non, après, quand tu regroupes des coureurs, des cyclistes, des sportifs ensemble, c'est rare qu'effectivement, pour que ça tourne autour d'autre chose, il faut se faire violence pour que ça ne tourne pas autour du sujet commun qui est effectivement... Et toi, t'as fait combien aujourd'hui?
Voilà. Bon, voilà, c'était la petite astuce de Thomas. Pour non, c'était des apéros l'été, ben, ouais. Ne faites rien. Bon, merci mon Tom. Moi, je voulais faire un autre ça m'énerve concernant le Tour de France. Alors là, c'est pas ça m'énerve sur les médias, mais c'est plutôt une attitude qui peut prêter à débat.
Oui.
Je pense que là-dessus, tu ne me contrediras pas. C'est l'attitude de Van der Poel qui s'en va après une semaine de Tour, après avoir quand même porté le maillot jaune, gagné des étapes. Enfin voilà, c'est juste fabuleux ce qu'il a fait. Mais derrière, c'est les gars, je vous ai bien mis dans la panade. C'est-à-dire que ceux qui jouaient les classements généraux sont bien mis chiffon pour dire ouais, ben nous, Van der Poel, tu ne fais pas peur. Et résultat, ils ont fini la première semaine déjà quand même un peu entamés. Donc, et bon, certes, ils préparent les JO, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je ne trouve pas ça sport pour, d'une part, l'étape du tour, enfin, l'organisation, qui est quand même la plus belle course au monde, même si après il y a les JO, et puis vis-à-vis de ses concurrents, et je sais qu'il y en a certains qui font un peu la gueule aujourd'hui, parce que ouais, ils disent, attends, si tout le monde fait ça, bah c'est bon, on fait que des courses de 8 jours, et puis
oui,
excuse-moi pour le petit bruit, je viens de me rendre compte que oui, j'ai fait un petit bruit avec ma bouche, ouais, désolé.
C'est avec la bouche. Non, ouais, alors, je dirais que là-dessus, je suis un peu mitigé, moi, parce que finalement, bon, encore une fois, c'est un peu un problème de contexte actuel. On est dans une organisation compliquée, puisque les JO vont arriver relativement proche du Tour de France. On est dans une année olympique. Alors, olympique qui aurait dû être l'année dernière, mais finalement c'est cette année. Donc c'est assez compliqué d'un point de vue contextuel d'avoir un calendrier un petit peu habituel. Maintenant, que Van der Poel bâche. Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils de Poulidor... manque de respect au Tour de France, je suis pas sûr. Quand même, globalement, on peut quand même dire que la famille Van der Poel, son père, son grand-père, honnêtement, je suis pas sûr que dans la famille on déconsidère le Tour de France avec toute la symbolique qu'il y a autour. Maintenant, c'est sûr que oui, il bâche, il fout le why, mais il fout le why de quoi ? Ben, en même temps, s'il avait pas bâché. Ben, si ton objectif c'est le classement général et d'arriver le mieux placé à Paris, ben, je dirais que ça faut faire avec les aléas de la course. Ben, les aléas de la course, tu peux estimer que le gars qui fait une première semaine comme Van der Poel a fait, je pense que la troisième, s'il n'avait pas bâché, elle aurait été quand même ultra compliquée. Le gars, s'il a 100 cartouches, en une semaine, il en grille 75. Ben, il en reste 25 pour faire deux semaines. Ben, au pire, il n'aurait pas bâché. Ça aurait été compliqué. Et au final, toi, si tu as eu la capacité à gérer un petit peu mieux, ça, je pense que c'est des situations qu'il faut appréhender quand tu vises le classement général, à poids, à points, peu importe. Mais voilà, ça fait partie quand même des aléas de course qu'il faut prendre en compte et en considération dans une équipe en disant, bah oui, Van der Poel, honnêtement, il est énorme la première semaine. Maintenant, il faut que ça dure. Bah voilà. Pogacar, il se cache. Ouais, est-ce que lui, ça l'a dérangé Van der Poel ? Ouais, je pense pas, on reviendra sur son cas, mais c'est sûr.
Sur le cas, pas les gars.
Mais c'est vrai que du coup, voilà, que Van der Poel bâche, moi ça me choque pas.
Ouais, mais c'est histoire de faire du débat. Enfin, ouais, t'as parlé tout à l'heure, bien sûr, enfin, ce qu'il a fait, c'est juste énorme par rapport à son grand-père, à toute sa famille, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, c'est plus par rapport à certains coureurs qui, Bah voilà.
Sont un peu justes, finalement.
J'irais pas, ouais, sont un peu justes. C'est difficile de dire ça à ce niveau-là, mais bah, disons que si tu veux, eux, ils avaient des objectifs et. Mmh. Ben voilà, donc c'est plus pour ça. Mais bon, histoire de débattre un petit
mais
peu.
Mais bon, voilà. Si
le débat fait avancer la société.
Exactement. S'il nous sort une perf à Tokyo sur.
Ben, je vais me taire. Hein.
Non, mais il n'y aura pas se taire. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui, ben voilà, il a choisi d'être et performant la première semaine du tour et champion olympique de VTT. Ouais.
Ça se match. Hein.
Ça se match.
Alors,
ça
du coup, entre les deux, tu vois, tu vas prendre des vacances.
Ouais.
Et le thème d'aujourd'hui, mon tom-tom, c'était voilà, borné en vacances, les astuces de la bande plein les oreilles.
Exact.
Alors, concrètement, tu voulais mettre un petit jingle ?
Ouais, j'ai tenté. Ouais. J'ai avancé, mais allez, j'ai pas.
On le remet parce que c'est celui-là,
pas.
C'est le bleu.
C'est le bleu ?
Ouais.
Ah ouais, c'est beau.
Mais tu vois, il est pas mis fort. Là, c'est mieux. Voilà, les amis. Donc oui, ça y est, vous êtes en vacances et vous vous dites, j'ai un objectif ou pas, je sais pas quoi faire, est-ce qu'il faut que je m'entraîne, je m'entraîne pas, est-ce que je dois boire des rosés ou est-ce que je dois justement faire le métier comme jamais, car bien souvent, on écoute des personnes faire le métier comme jamais ils l'ont fait en vacances, ça crée beaucoup de tension dans la famille. Comme disait Thomas, ceux qui n'ont no family life, comme dit Thomas, puisqu'il est parfaitement bilingue, aucun intérêt pour toi, tu peux écouter le prochain podcast. Par contre, si toi, tu as une vie de famille et que tu pars en vacances, même avec tes potes, vie amicale, hein, parce que ceux qui n'ont pas de famille peuvent avoir des amis, bah, écoute, va falloir jongler pendant les vacances avec la terrasse, la plage, le bronzage, le barbecue et le rosé.
Les horaires compliqués.
Les horaires compliqués. Donc là, aujourd'hui, Tom-Tom et moi-même allons vous donner quelques petites astuces. Alors Thomas, toi, ta première astuce concerne un peu le vélo, je crois.
Alors oui, ça concerne le vélo.
C'est l'idée de Thomas en plus, celle-là.
L'idée, c'est que, je dirais que, est-ce que finalement, vous avez votre objectif, prenons le cas d'un objectif fin août, bon, bah voilà, vous avez pris vos vacances, ça se coïncide bien avec tout le monde, bah oui, vous avez des enfants, bah oui, vous posez vos vacances en même temps que les enfants, bah oui, c'est mieux. Et bah oui, vous allez avoir une stratégie à mettre en place pour pouvoir vivre ce temps estival avec votre famille le moins mal possible et en essayant de garder quand même un petit peu en focus votre objectif fin août. Alors bah, je dirais que j'ai une petite astuce qui est pas si con et qui aide un petit peu à borner et à faciliter les choses.
À supporter sa femme du coup parce qu'on la voit moins.
ou l'inverse. C'est-à-dire que en fait quand on vous êtes pas trop vu pendant longtemps et que finalement vous arrivez à vous passer du temps ensemble. Ouais, bah des fois c'est bien de pouvoir avoir son temps pour soi.
On sent que c'est du vécu, mon copain.
Et non, mais voilà, l'idée c'est peut-être de vous arriver à vous. Voilà, vous avez un temps pour aller jusqu'à votre destination de villégiature. Bah là, clairement, vous pouvez vous faire déposer 50, 100, 150 bornes avant d'arriver. Vous laissez les clés du camion. Et puis vous faites déposer, puis vous retrouvez tout le monde à l'arrivée avec. Non, alors le goujat par excellence, c'est quand même quand vous arrivez, faites en sorte que la voiture ne soit pas débarrassée, parce que ça voudrait dire quand même que votre femme, elle s'est tapée d'amener la voiture sur le lieu de vacances et en plus elle a déchargé la
voiture.
Tu
sais comment j'appelle ça, moi? Ce mec, tu sais comment je l'appelle ?
Non.
Je l'appelle un dieu. Tu vois, c'est un dieu. Le mec, il est capable de dire, écoute chérie, je vais me taper 150 bornes. Donc, tu t'occupes des deux gosses. Non, mais il fait que 40 degrés, t'embêtes pas avec ça. Bah, la bouffe, c'est toi qui l'as faite. Au pire, tu t'arrêtes à l'arche là-bas pour les nourrir. On se retrouve à l'appart.
Et ça serait pas mal que t'aies débarrassé la voiture.
Non, mais en fait, il est tellement bon que le mec, il l'a formaté toute l'année pour qu'elle comprenne que dès qu'il part en voyage avec elle, elle sort les valises de la voiture et qu'elle les met dans la voiture.
C'est pas mal.
Et donc, du coup, le mec, il est malin. Tu sais comment il a fait ? Il a pris plein de petits sacs, c'est les petits sacs North Face, là, de 30 litres. Et comme ça, t'es sûr qu'elle les porte. Non, parce que tu prends des valises de 100 kilos. Ouais. Bah, tu sais que
j'ai pas pu la sortir, elle était trop lourde.
Voilà.
Ouais.
Bah là, regarde. Et je t'ai mis 20 sacs de 30 litres. Allez.
Non, ah là, c'est horrible. Non, c'est horrible. Si ma femme écoute l'émission, elle va. Non, c'est pas possible. Chérie, je ne te ferai jamais ça.
Non, mais voilà, c'est une petite caricature qui nous fait bien rire. Attention à la sécurité routière. On dit bien, ne descendez pas le vélo de l'autoroute lorsque vous êtes dans les bouchons.
Ouais,
prenez bien le temps de sortir de l'autoroute.
Ouais, prenez quand même la bretelle.
Emmenez pas vos enfants avec vous, sinon vous allez les perdre. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Merci Info Autoroute 107.7. Passez de bonnes vacances.
C'était magnifique.
Alors, mon TomTom, moi j'avais une question qui n'était pas en rapport avec le vélo, mais plutôt avec le sable.
Oui.
Une expérience personnelle qui va toucher tout le monde et qui va parler à tous les pratiquants de ce sport qui est la course à pied. Tu vois, je vais à la plage, du coup, je marche un petit peu. Et là, je me rends compte qu'au bout de 50 mètres, je commence à cramper des mollets. Et là, je me dis, et les mecs qui courent à 7 heures du matin torse nu, parce que là, ils courent torse nu, les mecs aussi, hein,
oui,
à
7 heures du matin. C'est la base.
Et là, je me dis, et comment ils arrivent à courir sur la plage? Alors moi, ma question, c'est, voilà, j'ai un objectif, après les vacances, voilà, je vais me faire plaisir. Est-ce qu'il est vraiment intéressant de courir pieds nus ou même en basket sur la plage et de faire des grandes longueurs de 2-3 km comme ça, est-ce que c'est probant? Parce que moi, j'ai l'impression que moi, ça me fatigue déjà pour 50 mètres.
Mais bah non, oui, c'est normal. C'est plus sollicitant. Après, est-ce que le plus sollicitant est souvent très, très proche du trop sollicitant? C'est-à-dire que si vous allez en vacances pour courir sur la plage et qu'un J2, vous découvriez une aponevrosite plantaire, c'est-à-dire une épine
peux parler en français du coup, parce que là, c'est... Ils sauvent des vies. Non, mais forcément, côtoie des chirurgiens tous les jours, le docteur Mamour là-bas.
Non, une tendinopathie, une tendinite de la voûte plantaire, que vous allez me faire.
On peut choper une tendinite à la voûte plantaire.
Ouais, ouais, d'accord. Souvent. Bah, quand tu cours pieds nus ou tu marches.
Ça veut dire que tu pinces avec tes pieds.
Ouais, bah, globalement, c'est ton arche plantaire, elle s'insère au niveau de ton talon. Et ça soutient l'arche du pied. Et le fait de courir pieds nus dans du sable, vous sollicitez davantage les muscles du pied. Et au final, ça peut être le plus et l'ennemi du bien. Donc, oui. Courir dans le sable, ça peut être intéressant, mais avec parcimonie et surtout, on garde à l'esprit que le corps supporte assez mal deux choses, le repos et le changement brutal.
Et parcimonie aussi. Parce que...
Et parcimonie. C'est-à-dire que si vous avez coutume de pas du tout courir dans le sable et que vous avez fait 1h30 dans le sable, c'est joueur. Et des fois, ça passe, mais alors bien souvent, ça passe pas.
J'avais une autre question concernant le sable, c'est que là, tu cours, imaginons, là, tu cours sur un sable qui est plat. Mais souvent, les mecs courent au bord de l'eau, tu sais, parce que là, tu sais, où, le sable est un petit peu plus meuble.
Ouais.
Mais par contre, tu vois, c'est pentu.
Ouais.
Donc là, tu désaxes un petit peu. Donc là, tu peux quand même aussi, à mon avis, créer des petites tendinites, là, mais genoux, choses comme ça.
Bah, le dévers, c'est un élément, on va dire, favorisant à une tendinopathie des péroniers, par exemple, les muscles qui sont sur le côté de la jambe. Parce que finalement, vous courez avec une tension excessive sur le compartiment externe de cheville. Deux genoux également, mais beaucoup plus la cheville. Maintenant, oui, je dirais qu'à un moment donné, tout va être problématique si vous en faites à une dose qui n'est pas compatible avec votre capacité des tissus du moment. Donc, courir dans le sable, ouais, je pense que en option et en stratégie bornée en vacances, c'est pas la meilleure.
Et donc, du coup, quand on pratique beaucoup le trail aussi, est-ce qu'il est intéressant d'aller courir sur les quais? Tu sais, en bitume.
Ah.
Tu vois, les mecs ont l'habitude de faire que de la piste. Ils disent « Ah, mais là, je suis en vacances, je vais me faire que du quai, tu vois, sur la promenade des Anglais. »
Tu vas faire de la route. Tu fais beaucoup plus de route. Je dirais que ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre préparation. Si votre préparation, vous êtes proche de votre objectif, je dirais que plus vous allez être spécifique, mieux c'est. Là, pendant la semaine de vacances, on va réfléchir à des stratégies qui peuvent faire en sorte que vous, vous viviez bien votre semaine de vacances, votre temps pour de vacances avec votre famille ou vos amis. Maintenant, si vous préparez l'UTMB et que la semaine où vous avez prévu de faire beaucoup un volume important, vous retrouvez sur du plat, sur la route. Oui, ça ne sera pas la semaine la plus spécifique du monde. Maintenant, c'est aussi à un moment donné peut-être prendre en compte cette programmation qui permettrait d'optimiser le temps que vous accordez à votre préparation en vacances et auquel cas peut-être décaler votre planification.
Après, ça peut être un moment de surcompensation.
Exactement. L'idée, c'est peut-être de trouver un moment donné où moi, c'était comme ça que je m'organisais. C'est-à-dire que la semaine où j'avais prévu d'être en vacances, je m'organisais en amont. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner et tenter de maîtriser ses adaptations et sa préparation, c'est prévoir les choses. Donc, on s'organise de façon à ce que cette semaine-là, en général, si elle peut être pas off, mais allégée, ou semaine d'assimilation, ça peut être intéressant.
Tu parles de semaine off au niveau de l'alimentation. On va se faire un petit pique-nique. T'as pas une petite astuce
Ah, la petite pique-nique, le petit pique-nique en famille. Alors, le petit pique-nique en famille, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous partez un petit peu en avance et vous laissez préparer tout le monde. Et puis vous rejoignez le point de stratégie et de pique-nique, la fleur au fusil, tranquille. Mais voilà.
Et vous rejoignez. Chérie, t'oublies pas la serviette.
Voilà, c'est un peu l'idée. Non, mais par contre, voilà, en amont, la veille, vous préparez tout pour tout le monde. Vous partez de bonne heure. Vous allez sur le site de rando, sur le site de pique-nique, en suivant votre itinéraire rando. Et vous arrivez avec tout le monde. Tout le monde arrive. On se rejoint plus tard. Voilà, vous calculez pour que vous ayez votre footing qui corresponde à j'arrive sur le site à peu près en même temps que tout le monde. Voilà, c'est l'idée, c'est que. Faire en sorte que votre entraînement n'impacte pas finalement la vie familiale et la vie autour de votre sport, c'est bien aussi, ça permet de souffler un peu, prendre du temps avec le vôtre, et ça aide franchement à bien vivre les choses.
Moi, mon TomTom, une question, bon, on a un petit peu répondu, mais je pense que quand on a, par exemple, on prépare l'UTMB, est-ce que pour toi, une semaine... de vacances à la bol ou tu vois, est-ce que c'est on va dire entamer ton capital ou est-ce que bon malgré tout on peut quand même trouver malgré ce que tu as dit tout à l'heure quelques petites
Il y a des astuces. Bon, est-ce que est-ce que la semaine à la bol vous allez ruiner votre prépa? Tout dépend, on en a parlé un petit peu, mais effectivement ça peut être aussi une stratégie où vous allez solliciter différemment les choses. Peut-être assimiler un bloc de travail que vous avez fait en amont de cette semaine à la bol. Enfin, la bol. Ou ailleurs. Hein.
Oui, mais c'était ton expression à la bol. Mais je sais que tu as quelque chose de particulier. L'architecture de la bol a touché Thomas. On le sait bien.
Non, et par exemple, ça peut être à un moment donné où vous allez faire axer, peut-être aussi, vous pouvez par exemple axer cette semaine-là autour d'un bloc de préparation un peu plus poussé sur vos membres inférieurs. Comme ça, du coup, vous allez faire
un
vraiment.
Peu du corps.
Comment ?
Haut du corps.
Non, le haut du corps, on s'en fout quand on court.
Ah ouais ? Il n'y a pas besoin d'être gainé, alors ?
Non, c'est au grand désarroi de mon épouse qui me dit « Mais là, tu ressens plus à rien avec ton haut du corps. » Mais je vais me remettre faire un peu de crossfit. pas forcément le haut du corps, mais un peu de gainage, tout ça. Mais vous pouvez faire un bloc de préparation avec du renforcement musculaire très, très ciblé sur les quads, les fessiers, les ischios qui peuvent... finalement aider à potentialiser cette semaine-là. Donc ça se monte en amont, mais ça peut compenser le fait que cette semaine-là, vous n'avez pas de dénivelé. Vous en profitez, entre guillemets, pour vous massacrer les cuisses sans dénivelé. Ce qui est tout à fait possible, ce qui a été un des grands piliers de ma préparation. Alors je pense que j'avais... Je dis pas que j'étais loin d'être le plus... le meilleur, finalement, en... D'un point de vue moteur, mais peut-être qu'à l'époque j'avais peut-être un peu d'avance par rapport à mon cursus de kiné, et du coup j'optimisais vraiment cette préparation musculaire, parce qu'en fait en une heure vous arrivez à vous massacrer les cuisses comme si vous aviez fait 6 heures en montagne. Donc du coup c'est vrai que ça aide
Tu avais une tolérance quand même à la douleur qui était assez
mais ça c'est un peu tout le monde, ça c'est un peu tout le monde qui court. Je sais qu'en vélo, vous avez du mal, mais en course...
Ah, mais moi, je le revendique. Hein, quand on voit la préparation, quand vous faites des grands tours de stade, le peu que j'ai fait, en parlant de ma petite expérience, j'ai dit, mais les gars, vous êtes complètement fous de faire ça. Non, oui, en course à pied, on s'aperçoit que les entraînements sont quand même impressionnants. Mais je tiens à rendre à César ce qui est à César. La course à pied, les entraînements sont violents. Voilà. Hein, on est d'accord ? Est-ce que tu vois d'autres choses, Madame Tom ?
Oui, ce qui peut être aussi intéressant, c'est sur cette semaine-là, on en a parlé sur différentes émissions. C'est vrai que c'est chiant ce... arrêter ça.
Mais en fait, tu t'aperçois que d'émission en émission, tout est tic que tu fais, tu les enlèves. Ah ouais. Donc là, il y en a un...
Vous remarquerez qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup enlevé de finalement. J'essaye.
Oui.
Mais c'est compliqué. Hein. C'est une lutte de tous les instants. Hein. Parce que le finalement, c'était assez facile.
T'en places 4 à la minute, oui, ça commence à faire. Hein.
Donc finalement, cette semaine à la bol, vous pouvez l'utiliser pour essayer des stratégies alimentaires dont on avait évoqué, quand on avait évoqué le jeûne intermittent. Des stratégies qui vont finalement... Ah merde. qui vont aider votre métabolisme en lien avec la lipolyse et avec une économie de vos réserves énergétiques et potentialiser votre effort en lien avec une consommation de graisse. Donc l'idée peut-être ça va être de faire une semaine où bah, vous allez peut-être dans la semaine faire peut-être 2 jours où vous faites du jeûne intermittent, comme on avait dit, donc les fenêtres métaboliques. Je vous invite à revenir à notre épisode précédent dans lequel on a abordé largement les choses et ça va justement vous aider à stimuler cette lipolyse pour qu'elle soit opérationnelle un peu plus efficacement le jour de votre objectif.
Alors moi, tu sais, je suis un épicurien de base, du coup, oui. Moi, je me dis, ouais, chouette lipolyse, ça veut dire que je suis à jeun le matin, ouais. Ça veut dire que la veille au soir, je peux me mettre barbecue, côte de bœuf, bière, ouais. Rosée, full.
Oui, bah non.
Eh bah si.
Bah oui, mais non. Parce qu'en fait, ce qui va justement primer sur la lipolyse, c'est juste une espèce de d'épuisement de votre réserve. Si votre réserve elle est à 155% la
oui,
veille.
Mais là, c'est du gras du coup, parce que tu vois, là, je me mets des grands canons dans le nez. Hein,
Là, c'est surtout de l'alcool. Oui. Du gras, bon, oui. Le gras, c'est la vie, mais là.
Dans
c'est
la viande, il n'y en a pas.
Non, là, il faut vraiment alléger la veille. Vous faites une semaine, une journée derrière où vous êtes hyper allégé, vous faites éventuellement un petit renfo, un petit footing, et puis vous optimisez tout ça. Ça peut être intéressant. Clairement.
Moi, tu sais, lors d'un précédent podcast, j'avais parlé, tu sais, du mec en soirée, là, qui fait le mec, ouais, moi je fais le métier, je mange rien, je bois rien. Bon, bah là, en vacances, c'est pareil, t'as toujours le mec qui va jobber comme jamais il n'a jobé durant l'année. Ouais. Donc là, ça me permet de rebondir sur un sujet, c'est est-ce que clairement, t'as un plan d'entraînement que tu trouves dans un magazine ou quoi, ou t'as un entraîneur, et le mec n'a pas pris en compte que tu partais en vacances la semaine du 15 août.
Ouais.
Et là, il te programme des séances de l'espace, 20 x 30-30, des 3 minutes IKA, tu mets 5, machin. Est-ce que clairement, tu es en semaine de vacances, il faut respecter à la lettre le programme, sachant que bon, bah, faut faire ta vie aussi. Ou est-ce que bah, c'est un peu au feeling et, voilà.
Bah,
qu'est-ce que tu en penses, mon Tom-Tom ?
Le plan d'entraînement, ça doit quand même. Et ça, c'est en vacances ou pas en vacances ? Je dirais que le plan d'entraînement, ça vous permet d'organiser votre vie autour d'une vie professionnelle, familiale et sportive. Maintenant, il ne faut pas rester esclave de ce plan d'entraînement. Et le feeling doit moduler ce plan d'entraînement. Votre feeling, c'est comment j'étais cette séance-là, mon ressenti, ma fatigue du moment. J'adapte, en fait. Ben, l'esprit général de quand je suis en vacances, ouais, encore une fois, on y revient, mais l'organisation et la planification en amont de cette semaine-là, c'est ça qui va être la clé, parce que c'est ce qui va vous permettre d'arriver sur cette semaine en étant en mode assimilation par rapport à un bloc de travail qui a été fait avant. Mais effectivement, on en a toujours qui... C'est un peu les rois aussi des débuts de saison.
Ah, c'est souvent les mêmes. Hein.
Ouais,
ils reviennent 3 fois dans l'année.
Ouais, c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire que ils sont en janvier, mais du coup, ils vont quand même borner encore plus que quand ils ont un peu plus de temps en saison et où la météo va être meilleure. Et là, voilà, il est en vacances. D'habitude, il s'entraîne 3 fois par semaine, il se prend pas la tête. Bah là, en vacances, il va s'entraîner 6 fois par semaine, faire ses siestes, ses machins. Non, bah, soit ça, faut pas prendre les vacances. Les vacances ne sont pas des stages, ok? Sauf si vous avez
prévu un stage.
Un stage prévu, sauf si vous avez un stage de prévu. Et auquel cas, vous êtes dans une dynamique et une stratégie totalement différente. On parle de vacances, pas de semaines de congés qui sont estampillés stage d'entraînement. Si vous avez un stage d'entraînement... Oui, on se la colle, mais c'est prévu dans une préparation générale, une planification. Vous êtes en vacances, ben, concilier, à mon avis, concilier des vacances familiales avec un stage d'entraînement, un, c'est compliqué, deux, c'est à mon avis...
Très compliqué.
Deux, c'est très compliqué, trois, c'est très 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 compliqué, et à mon avis, c'est très contre-productif. L'idée, vous ne vivrez jamais ni bien les vacances, ni bien votre entraînement, et vous allez à chaque fois essayer de ménager un peu d'entraînement, mais quand même, et ça c'est compliqué. Je dirais que pour l'instant, un stage, c'est un stage, des vacances, c'est des vacances. Les mettre ensemble, c'est assez compliqué.
Voilà, ben, j'ai envie de dire que tout est dit, mon petit Tom-Tom.
Tout est dit, Michel.
T'en as d'autres ou pas? Non.
Ah si, moi j'en avais.
Oh si, il en avait deux autres. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais vous expliquer l'envers du décor, moi. Mon copain, il se trouve que, vous voyez, on potasse l'émission chacun de notre côté. Et puis après, en fait, on se fait un petit briefing, un petit meeting sur, bah voilà, ouais, j'ai fait ça, et puis on fait un petit voilà, meeting de tout ce qu'on a fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Tom...
Il y en a plus, il y en a encore.
Voilà, il me sort des trucs de sous le chapeau, et voilà, donc j'ai l'air comme un abruti, mais bon, voilà, c'est pour le panache.
Moi, j'en avais un pour toi, qu'est-ce que tu penses du gars qui amène son home trainer en vacances?
Alors, c'est vrai que ben là, typiquement, je me dis, ça ne doit pas exister, mais pourtant, ça existe.
Ah oui, mais si, pourtant, si, j'en ai vu, sur le parking d'autoroute.
Sur le parking de l'auto, et pendant qu'il y a les bouchons. 107.7, bouchon sur la 87,
oh putain,
pour 2 heures.
Chérie, sors le home trainer, faut que je borne.
Et là, pour peu qu'il ait emmené le gros iPad, il se met Zwift et il va faire une course avec Cavendish. Ah non, mais alors là, les gars, non, mais chapeau. Chapeau.
Allez, sur le parking de l'Arche.
Non, c'est pas bien de se moquer comme ça. Mais voilà.
Donc on oublie. Non, bon, pas
on
bon.
Se détend, pas on bon. Se détend avec l'homme traîneur. Ouais, là. Punaise. Non, mais ça, c'est pas possible que ça existe. C'est pas possible.
Non, c'était pour la petite boutade.
Merci, Tom.
Bon, je trouve qu'on a un peu près fait le tour.
Oui.
L'idée, c'était, oui. Voilà, effectivement. Quand on a du temps, on prend du temps pour soi, pour les autres, pour sa famille, pour ses amis. Voilà. Ne confondez pas congé, stage, vacances. Tout ça, c'est des registres complètement différents. Et quand vous êtes en vacances, vous êtes en vacances. Une vacance sportive, c'est bien aussi.
Moi, je vais,
c'est des stages.
Je vais juste une petite question, Thomas. Le rosé, c'est la santé. En vacances, on a le droit de voir un petit verre rosé quand même.
Ah, mais... En
non, parce que moi j'en vois qui. Non, pas de rosé du tout. Hein.
Mais c'est les mêmes. À un moment donné, jobé, c'est jobé. Borné, c'est borné. Mais prendre du temps pour soi, pour décompresser, passer à autre chose, couper, c'est aussi le top parce que ça vous permet derrière de remettre la poignée et du coup de vous remettre sur un objectif. Maintenant, le rosé. Bon, bah, si t'aimes ton rosé pamplemousse,
je vais pas mettre du sucre parce que tu vois le sucre, ça va me faire monter.
Non, moi je suis. Voilà, je suis pas très rosé, mais je. Comprendre que voilà, on lâche un peu
c'est
les chevaux. Voilà, on voilà. Se fait voilà.
Bon, mais merci, mon Tom Tom, pour tes astuces plus ou moins rigolotes qui nous feront passer des vacances. Mais alors, mais terrible, on va se marrer pendant ces
N'oubliez
vacances.
N'oubliez pas votre Gore-Tex, mais sinon, c'est pas mal.
Alors, mon Tom Tom, voilà, on a étudié le sujet quand même assez large, des petites astuces en vacances. Tout a été résumé, j'ai envie de dire clairement. Le mec, il s'auto-satisfait du truc quand même. Oui, alors notre résumé était proche du parfait, quoi, tu vois, vraiment.
Ah ouais, j'avoue. Non, c'est...
Et donc là, si tu veux, maintenant qu'on a fait ça parfaitement, on va passer à l'actu chaude. Et l'actu chaude, en plus, on peut faire Cocorico.
Oui.
Notre première actu chaude.
Tout à fait.
Et en plus, Cocorico Bounia. Cocorico
oui.
Bounia.
Oui, tout à fait.
S'il vous plaît. Monsieur,
oui, exactement. Voilà. C'est vrai.
À savoir notre TGV Auvergnat.
Tout à fait.
Alias Rémi Cavagna.
Rémi Cavagna, voilà. Alors, pour le coup, il est clermontois, pure souche.
Super baisse, précisément.
Super baisse.
Par là-haut, hein.
Ah,
bon, attention. Bon
ouais, attention.
Bourboule, oh là là.
Voilà, attention.
Il y a le bon ou le mauvais côté du Sancy. Voilà, alors, pour chers amis auditeurs, nous avons dans le massif du Sancy, nous avons la station de ski Super Baisse et la station du ski du Mont d'Or. Alors, à savoir qu'il y en a une qui est côté nord et l'autre côté sud.
Voilà.
Donc, celle côté sud, c'est Super Baisse qui se dit... être la station où le soleil est présent tout le temps et le Mont d'Or, la station où il n'y a pas de soleil, mais tu as de la neige où tu peux skier. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme la Belgique et les Français.
Ouais, clairement.
Comme les ânes et les chevaux. Voilà,
on c'est... est... Non, alors pour le coup, Rémi, lui, il est du côté nord. Donc il est la Bourboule, ce côté-là. Mais voilà, pour ceux qui suivent là, un peu l'actualité vélo ou qui ne le suivent pas, on va la rappeler. Rémi, bon, là, c'est 1000 watts sur 5 minutes.
C'est
un truc de dingue. Et il est surtout champion de France à la pédale.
Professionnel.
Échappé à 15 km de l'arrivée. Les gars, ils se relaient derrière.
Bonsoir.
Il y en a pas un qui lui reprend 3 secondes. Voilà, donc à la pédale, un truc de malade.
Moi j'ai envie de dire pour ajouter à ça mon Tom Tom, il faut savoir que le jeudi il a fait le contre-la-montre le championnat de France, il a eu des soucis mécaniques et tout, donc il termine à 5 minutes.
Ouais.
Rémi a été capable de se remobiliser à dire bon, parce qu'il devait gagner il devait gagner le championnat de France. Rémi, de toute façon, chrono il est voyez, il termine deuxième dernier chrono du Giro, enfin bon, il a
dans les barrières mais deuxième.
c'est un très très gros moteur, et il arrive à se remobiliser Et il est dans l'échappée, parce que là, il faut savoir que passer 200 bornes, le vélo, c'est une autre course, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'un sprinter, il peut être très bon, facile sur des sprints à l'entraînement pendant 2 heures.
Ouais.
Allez lui faire faire les sprints après 6 heures de vélo, vous allez voir que les watts sont divisés par de nombreux chiffres. Donc là, ce qu'il y a, c'est que... Je l'ai dit, j'ai pas dit, je savais plus.
J'ai
dire
sorti,
combien.
J'ai dit, oulala, ouais, non, bah non. Non, bro,
divisé par 1,275.
Le dividende, non, le dividende.
Et donc, voilà, il s'est remobilisé. Et Vlatipa, qu'il est dans l'échappée, en plus, ils ont eu un temps. Mais alors,
ouais. Là, ah, bah, un temps de juillet.
Et les mecs étaient avec lui dans l'échappée, à une relance virage gauche, il dit, oh, on lui a laissé 10 mètres, on n'a jamais réussi les bouches. Ouais. C'est le problème de Rémi, c'est ouais. Qu'il faut jamais lui laisser un mètre.
Exact. Donc non, voilà, mais c'est... Moi, le seul petit bémol que j'aurais, mais bon, une fois, c'est les aléas du cycliste professionnel. Je trouve toujours un peu dommage quand le champion de France, il n'est pas au Tour de France. Mais bon,
sachant qu'il l'était l'année dernière.
Alors, l'année dernière, il était champion de France de contre-la-montre. Oui. Donc déjà, bon, allez, ça passe. Là, c'est vrai que c'est dommage. Voilà, je pense que pour tout cycliste professionnel, rouler sur le Tour de France... avec le maillot du pays, voilà, ça doit quand même être exceptionnel. Et je trouve que c'est juste un peu dommage. Bon, après, ça, c'est les stratégies de sélection pour les grands tours. Ça a joué à l'avantage de Cavendish, bon, bah, qui est pour le coup de la même équipe. Voilà, c'est les inconvénients d'être finalement dans une équipe
après,
professionnelle.
Je vais le défendre, hein, Rémi, c'est que là, bon, il y a les JO qui arrivent.
Ouais.
Un podium au Giro. Un Giro.
Au Giro. Au Giro. Au Giro. Au Giro. Un podium au Giro.
Un podium au Giro. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent italien, mais n'importe quoi, je m'excuse de ça.
Au Giro de Tokyo.
C'est ni bon ni mauvais cette histoire, hein, mais n'importe quoi. Mais voilà, c'est vrai. Après, tu sais, c'est comme les Français qui vont pas au championnat de France.
Ouais, bah pareil.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Un coureur qui va pas à son championnat national.
Ouais, c'est voilà, compliqué. Parce que je pense qu'il y a plein de stratégies pour pouvoir aller au championnat de France de son pays. Parce que on est encore. En plus, on est d'accord que le championnat de France, il est ouvert aux équipes privées.
Aux coureurs français.
Et oui, que aux coureurs français. Mais aux équipes privées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une stratégie d'équipe de votre équipe habituelle.
C'est-à-dire, en l'occurrence, la Française des Jeux, ils sont 22 coureurs au départ. Et, ben, voilà. Et t'imagines quand même que Cavagna, ils étaient que deux de l'équipe 3 avec Sénéchal, ouais, mais... Alaphilippe Sénéchal, ouais. Et les mecs, ils vont les toper. Hein.
Mais oui.
Ah, c'est
et
beau, hein.
C'est pour ça que là où je te rejoins, c'est que finalement, vous êtes coureur français. Ouais, pourquoi ne pas aller au championnat de France, même si vous ne jouez pas la gagne? Parce que aider quand même un pote avec qui vous partagez les entraînements toute l'année, les déplacements toute l'année, bah, l'aider à gagner cette course sur le championnat parce que bah, il sait le profil qui lui convient le mieux. Bah, voilà. Je pense qu'un Alaphilippe, par exemple, clairement, bon, bah, il n'est pas dedans, mais jamais de la vie. Bah, je pense que derrière, s'il est dans l'échappée, il va jouer la carte contre-productivité de l'échapper et essayer de faire en sorte d'aller un petit peu mettre des bâtons dans les roues à l'échapper pour que ça rentre.
Et l'expression « bâton dans les roues
». Mais oui, c'est vrai que je suis d'accord que, voilà, Rémi, champion de France, dommage qu'il ne soit pas au Tour de France et, voilà, petit bémol sur les coureurs français qui ne jouent pas le jeu du championnat de France. Maintenant, c'est vrai que les calendriers, bah, y a des courses tous les week-ends, et encore plus cette année-là, parce que c'est concentré. Voilà, c'est les petits...
C'est les trucs des vieux grincheux dans des BPO. Les vieux grincheux, ils bavent sur tout, mais non, pas du tout, on est trop contents. Voilà, c'était juste une petite histoire.
Exact.
Alors, moi, on reste sur le Tour de France, sur Pogacar, bon, grosso modo, là, s'il tombe pas, globalement, elle a gagné le Tour à la fin de la première semaine. Ça fait 20 ans que c'est pas arrivé cette histoire depuis 20 ans. Même Armstrong n'avait pas fait mieux.
Oui.
Clairement, il faut savoir quand même que ce gars-là, il a gagné toutes les courses auxquelles il a participé cette année.
Ouais.
Sauf une.
Ah oui.
J'étais en train de chercher tout à l'heure, mais je sais qu'il a tout gagné. Il est impressionnant, il est régulier. Ouais. Et voilà, après, t'imagines, y a l'étape où ça bordure, il part à 40, il prend 5 minutes dans les carreaux, il a fait rouler son équipe pour le panache. À 22 ans, moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il a une lucidité, une expérience et un contrôle de soi-même. Se dire, oh, les gars, il y a des mecs dangereux au classement général. Il y avait le troisième, le quatrième au classement général qui était devant.
Ouais.
Non, mais pas de souci, les gars, il n'y a pas de problème. Et ça, je suis impressionné par cette maturité qu'ont, je dirais pas que lui, hein, mais les coureurs aujourd'hui, la génération des 20-25 ans, Oui. Ils ont une maturité, une expérience de course. Je trouve que bah, nous, à notre âge, on était un peu benés. Ouais. On comprenait pas bien comment ça marchait, quoi, tu vois.
Après, pour remettre de l'eau à ton moulin, je dirais que là, actuellement, les, je trouve que les... Alors, je sais pas si c'était comme ça avant, mais pour l'équipe de Pogacar, les directeurs sportifs, c'est des tauliers, quoi. Les deux directeurs, les directeurs sportifs ouais, de l'équipe.
C'est vrai qu'il y a les oreillettes aussi.
C'est, ouais. Il y a les oreillettes. Tout ça, ça nivelle quand même vraiment la lecture de course. Pour en revenir à Andy Merckx, les gens, voilà. Mais, ah bon, il n'y avait pas que Andy Merckx, hein, mais pour, comme on en a parlé au début. Mais cette lecture, ce sens de la course, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Maintenant, actuellement, c'est un peu le problème des oreillettes. C'est que finalement, on se rend compte que ben, on ne sait pas vraiment si... C'est la science de la course du coureur ou si c'est la science finalement des directeurs sportifs qui sont dans la voiture et qui en, finalement ont adapté leur ressenti de la course par rapport aux écarts, à la vision des coureurs, ainsi de suite. Maintenant, un gars comme Pogacar, bah, il va voir Yann Bernal ou Carapaz, et ben, il va avoir sa lecture, son analyse, mais elle va être aussi... ponctué par l'analyse du directeur sportif qui lui aussi va voir à l'image ben Carapaz et ainsi de suite, lui dire ouais il est un peu juste, il est un machin, il est derrière. C'est puis vrai. Voilà, on achète des yeux dans la tête des coureurs parce que...
Mais heureusement Marc Madieu est remonté au créneau lors de la première semaine et il a dit les gars, il faut savoir quand même que Marc Madieu était un des... Il est monté au créneau, il faut que les coureurs aient des oreillettes. Et ben comme quoi, vous voyez, tout le monde arrive à changer d'idée. Il a dit peut-être que le fait qu'il y ait des oreillettes amène plus de chutes. On va pas revenir sur ce débat parce que ça peut être un, ça m'énerve. Toutes les chutes qu'il y a eu lors de la première semaine,
ouais, c'est un truc
où c'était du grand cinéma, les routes sinueuses et tout. Après, bon, le tour a des obligations, ça n'excuse pas. Les coureurs ont des obligations aussi. Et quand je vous dis que dans les 10 derniers kilomètres, on va à la guerre, ça n'est pas une blague.
Ouais.
Et là, quand il y en a un qui stole à 60 à l'heure, on voit tout de suite que ça fait des cathédrales.
Ouais.
Hein. C'est terrible. Donc là, c'est sûr que le jour où les coureurs n'auront plus les oreillettes, ou si, avoir des oreillettes entre eux. C'est-à-dire que là, oui. Moi, c'est mon idée, c'est une idée qui je trouve intéressante. Ils peuvent échanger eux-mêmes sur la stratégie sans aide extérieure.
Ouais,
c'est-à-dire que les seuls mecs qui se mettront la pression, c'est les leaders de l'équipe et non pas les DS qui sont devant leur télé, qui sont capables, comme tu disais tout à l'heure, de dire si Bernal ou Carapaz sont bien ou pas. Ouais. Là, c'est l'autre, ouais, t'as vu dans l'oreillette, bah, fais gaffe à lui, machin, machin. Voilà, bah, là, au moins, c'est les coureurs qui font la course et non pas les DS. Après, hein, t'as beau être dans ta bagnole. Si les mecs, ils n'arrivent pas à payer sur les pédales.
Oui, mais après, là où je te rejoins par rapport au DS, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité dans les chutes collectives. Parce que quand on voit les DS qui demandent, quand tu as les 8 coureurs, que tu demandes à tes 8 coureurs d'être devant, parce que ben, ça fait 8 coureurs de 15 équipes qui sont censées essayer de remonter devant. Donc oui, ça devient électrique devant, c'est sûr.
Dans le roadbook, tu as les virages, les dodans, tout est annoncé, hein, les îlots. Sur la route, parce que si ce n'est que dans les 5 derniers kilomètres, globalement, ils sont assez rasés, ils sont détruits. Il faut savoir que là, tu as le DS dans l'oreillette qui te dit dans 3 bords, virage à droite, ça va se mettre à bordurer, tout le monde devant. Ouais. Et là, tu les vois, ça remonte plein badin. Et globalement, bah, sauf que tout le monde a la même,
ouais, la
a
même la, info.
La même info au même moment.
Ah, oui.
Et donc, c'est pour ça que bah, ça, le jour où ça n'existera plus, ça limitera peut-être. Après, il y a aussi le matériel. Les freins à disque permettent un freinage plus tard. Plus de sécurité à ce niveau-là, enfin, ça joue aussi. Hein.
Oui, puis il est... Là, alors, autant avant, on avait incriminé un petit peu...
T'es en train d'en sortir une, là. Je vois, t'as
elle arrive,
ta gueule.
Elle arrive, tu vois, elle revient du fond des entrailles. Et là, je peux pas m'empêcher de dire... Bon, c'est vrai qu'à la fin de l'étape, ils ont quand même pas mal ingurgité d'antalgique. C'est sûr que ça endort un petit peu sur les réflexes.
Et il nous la sort à chaque fois, c'est
non, mais mais c'est vrai qu'en fin de course, bon, bah, t'as quand même, quand t'as commencé à avoir 5 antalgiques dans le cornet, bah, voilà, ils arrivent à être un peu moins vigilants sur les dodanes. Bon, c'est une petite analyse de la situation, peut-être biaisée, mais une petite analyse.
Bon, en tout cas, ça nous fait bien rire, voilà, ça fait pas de mal de rigoler. Voilà pour notre actu.
Non, on en avait une. De Vichy.
Ah oui, pardon, Vichy.
Voilà, tu peux pas lasser, la lâcher.
La fait. Alors, il faut savoir que à Vichy, nous avons eu.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est l'Allier qui coule, mais à la base, il n'y a pas de lac à Vichy.
Et non.
C'est une retenue d'eau.
Et ben, c'est l'Allier qui coule au milieu de Vichy. Ils ont réussi à en faire un lac.
Un lac, avec une retenue, avec des,
Des vannes.
Des vannes, voilà.
Des barrages.
Et donc, il faut savoir que ces vannes, aujourd'hui, c'est un chantier qui dure sur 4 années.
Oui.
Ils sont en train de les remettre à neuf, quoi, ces petites vannes. Et là, pas de bol.
Bah, c'est arrivé un peu tôt.
Le jour où ils se disent, tiens, bon, allez, on attaque la vanne numéro 6, les gars. Paf ! Elle pète à 4h du mat.
Voilà.
Sauf que là, pas bon, là.
Plus de lac.
Alors, plus de lac pour l'Ironman. Il faut savoir que le championnat de France d'aviron, la semaine dernière, a été annulé. L'économie de la ville, bah, c'est vrai, l'été, c'est quand même hyper agréable. On va faire la pub de Vichy.
On va faire la pub de Vichy.
De Vichy. Alors, on n'est pas en 45. on n'est pas du tout dans ce délire-là. Hein. On fait la pub de Vichy sur les carreaux de Vichy, le bien-être de Vichy.
D'ailleurs, tu sais que l'économie du lac de Vichy, le plan d'eau, plan d'eau de Vichy, sur l'été, combien de tours de ski nautique ?
Ouf.
Plus de 1000.
Non.
1000 tours de ski nautique en 2 mois. Donc vous imaginez le manque à gagner quand pendant 1 mois vous pouvez pas en faire. Ça fait pas mal de. Voilà, quand vous avez votre économie qui a été un peu, on va dire, amputée par le Covid et que direct derrière vous enchaînez avec pas de lac possible, c'est compliqué.
Donc là, la commune, excusez-moi, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, Vichy. Essaye de mettre en place le process pour réparer les vannes au plus vite, mais c'est assez compliqué parce que c'est un chantier de plusieurs millions d'euros pour que l'Ironman puisse avoir lieu, parce que sinon ils vont pas toger dans la... pas trop, hein. C'est quand même un petit peu praticable.
C'est juste une piscine, quoi. Non, c'est humide, mais c'est sûr que l'événement de l'Ironman de Vichy, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est impossible d'avoir lieu. Donc normalement, ça doit être réparé mi-août. La semaine d'après, c'est l'Ironman de Vichy. Si le timing est bon, ça passe nickel. S'il y a du retard, ça va être compliqué.
Donc clairement. Voilà, c'était un petit coucou à nos amis de l'Ironman de Vichy.
Les Vichy
soient. Courage à vous, et puis on espère que ça... Que les problèmes seront vite résolus pour que l'épreuve
ait lieu. Le timing sera le bon.
Ouais. Tu y seras, toi, à l'Ironman à Vichy ?
C'est possible qu'on y passe, qu'on y aille faire un tour.
Ça, dans tes vieux jours, un Ironman, Tom ?
Alors, l'Ironman, en fait, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais en gros, ce qui m'enquiquine le plus, c'est que je connais les contraintes inhérentes à un objectif qu'on signe un peu vite fait. et que finalement, les contraintes inhérentes à la préparation, souvent c'est un peu voilà. Je vois trop maintenant l'envers du décor, avant l'objectif en premier.
D'accord, donc on compte pas sur toi, sur Vichy. Ok, très
bien. Non, pour l'instant.
Mon Tom, ça c'était pour notre actu chaude.
Exact.
On conclut toujours notre émission maintenant depuis des mois avec l'expression du mois.
Oui.
Alors, mon Tom, l'expression du mois est une expression qui marche aussi bien pour le vélo. Que pour la course à pied ou que pour la course à pied, que pour le vélo, même si je ne sais pas si vous avez déjà couru avec des maillots en laine.
Elle vient du monde du vélo parce qu'effectivement, avant, les maillots de vélo étaient en laine.
Oui.
Et donc, notre expression du mois, c'est avoir de la laine sous les ongles.
Avoir de la laine sous les ongles. Alors, pas la laine. Le fait
pas de la laine.
Non, de la laine du mouton.
De mouton.
D'accord, voilà,
de Mérinos.
Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que toi, je sais que t'es ce type de coureur.
Ah non, alors là, oulala, pas du tout, du tout. Alors là, pas du tout, du tout.
Et il a un égo, le mec.
Ah non. Alors moi, justement, c'est typiquement ce genre de symbolique que j'aime pas trop. C'est gagner. En fait, avoir de la laine sous les ongles, ça signifie finalement gagner en s'étant accroché au maillot d'un coureur. C'est-à-dire que vous avez en gros sucé la roue du coureur et vous lui avez fait le sprint. Ou vous êtes finalement servi du train du coureur et que à l'arrivée, vous avez gagné, mais en fait vous avez été une fois devant à la ligne d'arrivée. Donc
ça c'est dit.
Ça se rapprocherait de en fait à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, clairement là-dedans. C'est-à-dire moi. Je préfère finir cinquième et avoir tenté de gagner à la pédale et en ayant montré le maillot que finalement avoir gagné en mode un peu entre guillemets crevard et avoir finalement passé zéro relais et d'un concours de circonstances finalement. Là, je l'ai dit quand même pas mal de fois. Tu vois, quand je suis fatigué, le finalement revient vite.
Mais tu vois, et je m'aperçois qu'au bout d'une heure, t'es cramé quand même.
Ouais, je suis cramé.
58 minutes 45.
J'ai plus de fond.
J'ai plus de fond, le petit.
Gagner à un moment donné, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tenter le petit coup de folie. C'est comme ça qu'on.
Le petit coup de folie.
Non, mais voilà.
T'étais un foufou, toi. Hein.
Mais. Je trouve que les jeunes, maintenant, ils calculent trop.
Et, ouais, les jeunes, oui, ça, c'est clair.
Et Ils attaquent la discipline et en gros, ils en sont déjà à essayer de s'économiser, à calculer que, ouais, mais là, peut-être, je vais pas passer devant parce que si. Non, mais c'est. Alors, on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend.
Alors, ça, vous voyez, le Dalai Lama nous l'avait sorti, mais je pensais pas qu'il me la sortirait.
Non, alors, c'est pas le Dalai Lama. c'est pas le Dalai Lama.
Bah, si tu veux, regarde sur Wikipédia pendant que je lance la suite. oui, tu as raison, mon Tom Tom.
Non, mais moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais si c'est dans le monde du vélo, c'est un peu pareil.
C'est pareil.
Mais, ouais, je trouve que maintenant les jeunes ils sont un peu en mode. Alors là, ça fait vraiment le truc, les deux là, c'est les deux meupets de chaud là, tu sais, qui. Non, là ça fait. Alors on va pas finir sur une note boomer, mais voilà, la jeunesse devrait s'inspirer à un moment donné d'un petit coup de folie en fait, gagner en vigueur et voilà, tenter des choses. Pogacar, ben voilà, c'est un. Alors, l'avenir nous dira si c'était une folie stupéfiante, mais mais voilà, le coup de avoir de la laine sous les ongles et en étant jeune, ben voilà, je trouve ça juste un peu dommage et que voilà, c'est pour ça qu'on voulait parler un petit peu de cette expression parce que voilà, à un moment donné, on tente. Si ça passe, ça passe. Et c'est encore plus beau.
Ben oui, c'est ça. C'est le panache, quoi.
C'est le panache.
C'est le panache, hein, bah, typiquement. Alors, normalement, Tom Tom, on était censé conclure là, mais sache que là, j'ai une idée. J'ai une fulgurance qui vient d'arriver.
Voilà. Vas-y.
C'est, et on n'en a pas parlé, on est à Clermont.
Oui.
Et cette semaine, ce week-end, oui, cette semaine.
Ah oui.
Le stade Philippe Marcon.
Ah ouais, ouais.
Ça, René c'est... de ses cendres.
Ah oui, ça c'est le...
Terminus, le vélodrome. Et place... Ouais. Comment t'appelles ça? Le sol là du...
Le tartan piste.
Le tartan.
Ah oui, non, c'est vrai que là, le tartan a largement supplé le vélodrome. Alors le vélodrome...
C'est magnifique.
Qui a quand même vu une arrivée d'étape du Tour de France. Oui, bon, ça sentait le coup un peu arrangé, mais bon...
Comme souvent sur les vélodromes. Ouais. Mais il faut savoir que c'était, pour la petite information, la piste la plus longue de France.
Ah ouais.
500 mètres.
500 mètres.
C'est très très long.
Ah, c'est long. C'est
en fait, même, tu peux pas monter en haut des virages. T'as
ouais,
pas suffisamment
c'était,
de vitesse.
C'était, ouais.
Ça te plaque pas, toi, dans le dévers.
Ouais.
Alors, mon tom-tom, j'ai une question parce que là, j'ai su que la piste d'athlétisme ne serait ouverte qu'aux licenciés. Alors, moi, une question.
Oui.
J'ai une question là. Moi qui ne fais pas de course à pied. Hein.
Ouais.
Pourquoi? Est-ce que moi qui suis pas licencié, j'ai pas la bonne foulée pour je ne sais pas, je
non,
me
mais
dis
alors,
mince parce que mes pieds sont crochus.
Je te rejoins sur cet aspect-là. Alors, licencié ou pas licencié, c'est peut-être c'est possible que ce soit plus les associations en lien avec la ville.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui est pas dans une assoce et qui court pas dans un club ne peut pas monter sur la piste.
Ouais, mais un peu comme les piscines. Finalement.
Bah pourquoi moi je peux bien aller nager si
oui,
j'ai pas
mais
de
si
licence,
tu payes ton entrée.
Bah oui.
Ouais. Mais après, pour l'instant, c'est vrai que sur les stades, on n'a pas, cette stratégie de payer son entrée pour aller faire son 10x400. Ça peut y venir. Après, je t'avoue que finalement, ça, c'est on paye un petit peu les pots cassés d'abus antérieurs. Moi, je me souviens encore de Marcombe où à la fin de Marcombe, fallait se faire la place au couloir 1 à travers les scouts. Que des gens qui enfin les scouts pas les scouts de France hein, les scooters voilà
les
et c'était un peu n'importe quoi et ben voilà là on paye un petit peu les pots cassés de tout ça mais alors le fait que ça soit ouvert qu'aux licenciés oui ça moi perso ça me pose un problème parce que à un moment donné ça passe aussi par de l'éducation à comment on s'organise sur un stade, comment on court, dans quel sens, c'est
quoi
les repères.
Il y a un protocole.
Voilà, c'est un respect finalement des règles inhérentes à l'activité. Voilà, effectivement, on ne fait pas un footing au couloir 1, ça me paraît compliqué. Enfin, mais ça fait partie des règles, entre guillemets, des règles de vie dans un stade. J'y suis allé la dimanche, puisque c'était l'inauguration le 10 et 10 juillet. Ouais, c'est magnifique. Puis Marcombe, ça reste quand même le stade un peu historique de la course à pied, emblématique tout à fait de la course à pied à Clermont-Ferrand. On n'a pas eu de grands coureurs. Alors oui, il y a eu des grands noms, mais de très très grands coureurs, des Jazzy, on n'a pas eu de grands noms. Michel Jazzy est venu finalement à Marcombe sur un match équipe de France. Clairement, voilà, l'outil est magnifique. Ça a été très bien conçu. C'est vraiment un concentré de tout ce qui peut plaire à des gens qui sont en centre-ville.
Le basket, le ball, le piste de street hockey, beach volley, terrain de foot, tennis terre battue, sol dur. Enfin non, mais et c'est juste.
Non, c'est génial.
Incroyable. C'est juste. Les jeux pour les gamins. Enfin, ouais. Chapeau quoi. Bon, certes, ça coûtait. Nos impôts ont servi à quelque chose. Non mais.
Oui.
Bon, non, les impôts servent à ça, ben, on valide tout de suite.
Oui. Non, mais c'est sûr que ça relance une politique sportive dans un coin de Clermont qui avait été finalement bon, un peu délaissé. Mais c'était plus finalement un prêté pour un rendu. Bon, là, ils nous le rendent super, super bien. Donc voilà, chapeau.
Après, moi, je me souviens pas dans l'ancien Marcombe, alors peut-être que c'est l'ouverture. J'ai jamais vu autant de joueurs de basket.
Oui.
Là, les terrains de basket sont. Enfin, c'est,
ah oui, oui, non, mais.
Des films US, quoi. C'est super beau avec des magnifiques tags.
Ouais.
Ils étaient blindés. Ouais. Alors que dans l'ancien Marcombe, c'était pas trop le cas. Donc, c'est chouette.
Oui,
ça peut relancer et créer des vocations chez les jeunes parce qu'ils voient un super beau stade et les pistes de roller, ils ont fait un super beau truc. Enfin, voilà, c'est important, je pense, d'en parler ce soir, enfin, aujourd'hui, podcast.
Oui, non, mais je te rejoins complètement. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça donne une belle politique sportive. Voilà, Clermont actuellement a une belle dynamique autour de sa ville, de ses sportifs. Le Clermont Foot, la SM, le Stade Philippe Marcombe. On a des athlètes qui vont représenter les JO. Enfin, la France aux JO de Clermont-Ferrand, des Felus, des Cavagna. Voilà, c'est sûr que c'est actuellement Clermont et donne une belle image du sport national. Et donc, pourvu que ça dure.
On va délaisser les CESO du coup ?
Bah, les CESO avaient été le stade qui avait un peu compensé le fait que Marcombe était fermé. Maintenant, c'est sûr que les CESO, ça reste quand même un spot d'étudiants. C'est le spot qui est le plus proche des facs généralement, mais tous les coureurs de Clermont des années 90-2000, oui, le stade de course à pied, ça reste quand même Marcombe.
Bon ben, voilà, c'était pour conclure notre podcast. Cocorico Clermontois.
Exact.
Bon, merci mon Tom.
Merci mon petit.
C'était bien sympa.
Ouais.
Je te souhaite de passer de bonnes vacances.
Oui. Peut-être que tu vas. T'as un truc à faire en juillet ?
Oui, un grand truc à faire. Oui. Tu vas m'accompagner d'ailleurs.
Je vais t'accompagner dans ce beau projet qui est. Ça va être une belle tranche de vie. Une belle tranche de vie. Alors moi, je serai au chaud. Alors je vais manquer de sommeil, mais voilà. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la bande plein des oreilles, Sylvain va s'élancer dans la RAF. Donc c'était en lien avec l'interview qu'on a fait avec Arnaud le dernier épisode. La RAF, c'est quoi ? Une course 2600 km. Alors je l'ai tracé cette semaine, même sur les cartes, c'est long. 2600 km, on part de Mandelieu-la-Napoule, arrivé au Touquet. On passe par tous les plus beaux spots mythiques des cyclistes, l'Alpe d'Huez, le Tourmalet. Non, c'est vrai que ça passe peu. Ils auraient dû faire descendre un peu dans les Pyrénées.
Non.
Non, mais voilà, le Ventoux, l'Alpe d'Huez, on va aller monter jusqu'au Mont-Saint-Michel et on redescendra et on bifurquera pour remonter au Touquet. Autonomie complète, le moins possible, c'est le mieux. On part sur 4 jours et demi. Départ. Le samedi 24 juillet 15h15, j'essaierai de faire le relais en live sur le podcast sur le podcast et sur notre fil Instagram. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on va monter le truc bien propre, on a plein de petites surprises toute cette semaine là, donc suivez-nous sur les réseaux. Pas mal de... À mon avis, ça va pleurer dans les chaumières. Allez, bisous à tout le monde.
Salut, merci, puis à bientôt dans le prochain épisode. Et
bisous.
N'oubliez pas les 5 étoiles. Salut.